Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, bonjour à tous. Nous allons reprendre notre étude que nous avions commencée cet été sur les émotions et les sentiments. Et pour cela, eh bien, je vous invite à ouvrir votre Bible dans 1 Thessaloniciens 5:21 et nous allons lire tout simplement eh bien ce que Paul nous laisse pour notre méditation ce matin. Donc 1 Thessaloniciens 5:21. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Je reprends la lecture. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. La fois précédente, nous nous étions arrêtés sur une citation de John Wesley qui a dit ces paroles: « Ne vous hâtez pas d'attribuer quelque chose à Dieu. » Ne supposez pas trop vite que des rêves, des voix, des impressions, des visions, des révélations viennent de Dieu. Elles viennent parfois de lui, elles viennent aussi de la nature des choses, elles viennent également du diable qui interfère. Ne croyez pas tout esprit, parce que c'est de la crédulité, mais vérifiez si les esprits viennent de Dieu, nous dit l'apôtre Jean dans son épître au chapitre 4 et au verset 1er, premier épître de Jean. Nous avons la responsabilité de vérifier et d'éprouver toutes choses, et cela est un signe de maturité spirituelle. Agir sans recul, c'est prendre le risque de se fourvoyer soi-même, c'est donner l'occasion au diable de nous vaincre. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12, et nous allons tout simplement reprendre ce passage, donc Romains, chapitre 12, et au verset 2, il est dit ceci: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La Bible également nous précise dans le livre des Proverbes, et nous dit ceci: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. » Alors nous allons nous interroger tout simplement sur ce que peuvent être nos sentiments et nos émotions. Et nous allons réfléchir de cette manière suivante. Nous allons poser la question ainsi: puisque je dois mettre à l'épreuve toutes mes émotions, voici quelques mesures à prendre pour en vérifier la validité. Le premier critère que nous allons aborder ce matin, c'est tout simplement, toujours sous forme d'interrogation: mes sentiments et mes impressions sont-ils conformes à l'Écriture? Sont-ils l'expression de la volonté de Dieu? En d'autres termes, sont-ils en harmonie avec les enseignements de la Bible? Et cela implique naturellement que nous ayons une bonne et saine connaissance de l'Écriture sainte et de rappeler tout simplement au passage que la lecture de la parole de Dieu, eh bien, nous est indispensable pour connaître la volonté de Dieu et pouvoir ainsi l'accomplir. La parole de Dieu, donc, est un point de référence absolu et de comparaison. Et si je précise avec une remarque, c'est tout simplement d'ajouter, c'est que l'important, c'est de se servir de la Bible entière et non une sélection de textes favoris. Il ne s'agit pas de jouer ou de manipuler un verset en le sortant de ce contexte, parce que vous connaissez l'adage que celui qui sort un verset de son contexte ne cherche qu'un prétexte. Le deuxième critère, toujours formulé en forme d'interrogation: mes sentiments et mes impressions sont-ils en accord avec la justice, c'est-à-dire sont-ils justes? Je dois me poser la question: est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste de gamberger pour préparer une contre-attaque? Eh bien, vous répondez, et vous allez voir que la réponse elle est facile à ce moment-là. On vous a fait du mal, mais vous voulez faire du mal en réponse. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est normal? Enfin, c'est un cas très, très simple, un exemple très simple. Peut-être que, et parce que c'est juste, cela va me contrarier. Je donnerais bien libre cours à mes sentiments et de dire, eh bien, ça me soulagerait de lui dire ces quatre vérités et peut-être... Mais voilà, tout est là. Ça va peut-être me contrarier d'être confronté avec la justice de la parole de Dieu, avec ce qui est juste dans mon environnement. Et ça va peut-être froisser, eh bien, mon ressenti, mes préjugés. Ah oui, mes préjugés. Ah, mes préjugés. Mes penchants naturels. Alors, qu'est-ce que je vais opter, là, à ce moment-là? Je vais dire, oui, c'est pas juste, mais j'y vais quand même. Quand je le verrai, vous allez voir. Vous savez, ce qui est important, c'est pas de se soulager. Hein. C'est que la justice de Dieu soit faite. Ça, c'est important. Parce qu'autrement, ça peut nous emmener très, très loin. Si nos émotions, ou si mes émotions et mes désirs me conduisent à blesser autrui, à abandonner mes devoirs élémentaires d'homme, adulte, ou tout simplement d'enfant de Dieu, donc de chrétien, à être infidèle à mes responsabilités dans la vie morale, il y a de fortes présomptions que mes impressions ne sont pas fiables. Oui, elles ne sont pas fiables. Et là, je me trompe. Et je dois avoir l'honnêteté de dire, eh bien, je me trompe. Sans vouloir persévérer, à vouloir forcer les portes qui sont fermées. Parce qu'à ce moment-là, c'est peut-être le Seigneur que je vais trouver sur ma route à un moment ou à un autre. Hein. Et j'apprendrai des leçons. Et des leçons qui risquent d'être cuisantes. En m'interrogeant ainsi, est-ce que c'est juste? Vais-je hésiter? Et pourquoi je vais hésiter? Vais-je rougir? Ou est-ce que je vais être confus? Juste ou pas? Si je pars dans une voie d'injustice, d'iniquité flagrante, il faut que je m'attende à rougir un jour. Parce que tôt ou tard, les problèmes non réglés vont me retrouver sur mon chemin. Ils sont, je pense qu'ils sont derrière moi, mais ils vont aller plus vite que moi. Je ne vais même pas les voir me dépasser. Et un jour, ils se mettront en travers de ma route. Et là, Dieu me dira, maintenant, il faut régler le problème. Et ça sera encore beaucoup plus humiliant que là, au moment où j'aurais pu, où j'avais la possibilité de les régler. Notre âme... C'est tout un chantier, hein. Ça boue à l'intérieur de nous-mêmes. Hey, Seigneur, garde nos âmes, garde notre cœur, parce qu'il peut nous amener dans des bons chemins, mais il peut nous amener sur des chemins de traverse. Le troisième critère à prendre en considération, mes sentiments ou mes impressions restent-ils dans le plan providentiel de Dieu? On a parlé de la parole, on a parlé de la justice. On a parlé, et on parle maintenant, de ce ressenti qui doit rester dans le cadre de ce que Dieu a prévu pour moi, ses bons desseins. On le sait. On est là à dire, Seigneur, bénis-moi. Ben oui, le Seigneur va nous bénir. C'est ce qu'on pourrait appeler le plan providentiel. Il y a un plan ultime pour chacun d'entre nous. Moi, je crois qu'il y a un plan parfait pour chacun d'entre nous, pour chacune de nos vies. Et puis, il y a tous les à côté. Enfin, les à côté, ça, c'est, hein, c'est nous. Mais à partir du moment où je suis conscient que Dieu a quelque chose qui est le témoignage de sa bienveillance, de son amour, de sa compassion, et peut-être d'une direction tout à fait particulière, dans un service, pourquoi pas. Alors, est-ce que ce que je ressens reste dans le plan providentiel? Ce qui signifie que quand une inspiration vient du Saint-Esprit, écoutez bien, Dieu permet toujours sa réalisation. Je dis bien, je le répète, Dieu permet toujours sa réalisation. Le problème pour nous, c'est de savoir quand. Quand Dieu va-t-il m'exaucer? Et souvent, nous les hommes, nous pensons que Dieu nous exauce immédiatement, tout de suite, ou dans les jours, ou dans les semaines. Mais quelquefois, le Seigneur, parce que conjointement, il va développer une école. Il y a un plan providentiel, je le sais, j'en ai la conviction, j'ai reçu, prophétie ou autre, enfin, parole de Dieu, et j'ai cette certitude à l'intérieur de moi-même. Mais le problème, c'est que Dieu nous dit, oui, les choses seront ainsi. Mais en attendant, il va y en avoir du brouillard dans notre âme, dans nos pensées, dans nos esprits. Hein. Et quelquefois, nous allons avoir tendance à nous décourager ou à douter et vouloir faire les choses par nous-mêmes. Et c'est là où nous mélangeons. Et là, nous allons être dans une confusion. Mais Seigneur, ne m'as-tu pas parlé? Ne m'as-tu pas dit ceci et cela? Et au bout d'un certain temps, à force de poser ces mêmes questions, au lieu de rester dans la sérénité de la foi, eh bien, à ce moment-là, nous entendons toutes sortes de voix qui se contredisent, qui se superposent, et nous ne savons plus où nous en sommes rendus. Eh oui, plan providentiel. Quand, où, comment? Je cite cette parole que vous connaissez bien, parce que c'est une belle parole de la Bible, de l'Évangile. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous avez remarqué que le Seigneur ne nous dit pas quand. Il ne nous dit pas où. Il ne nous dit pas comment. Vous le verrez s'accomplir, point. Et notre cœur, quand nous recevons des promesses particulières, définies, précises, providentielles, alors on bondit de joie, on dit Seigneur, oui, d'accord. Mais entre le moment où Dieu a parlé, où Dieu nous a parlé, et le moment où les choses vont se réaliser, là il y a peut-être du chemin à faire. Et c'est là où nos sentiments et nos ressentis vont. Eh bien, quelquefois, ça va osciller, hein, ça va se promener un petit peu. Quand Dieu promet quelque chose, c'est pas comme nous le pensons, c'est comme lui, il le pense. Et ça, c'est important. Et non seulement comme il le pense, mais comme il le veut. C'est pour ça que le prophète Ésaïe, inspiré par l'Esprit de Dieu, dira dans le chapitre 55, mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Eh bien, merci Seigneur de ce que tu m'apprends, cette leçon, que la manière dont tu penses, dont tu veux, c'est pas la même que la mienne, mais moi, je veux penser comme tu penses et je veux vouloir comme tu veux. Et ça, c'est pas toujours évident parce que nous, nous sommes renfermés dans le temps avec des conditions, des circonstances, des événements, quelquefois des événements qui vont même aller à l'inverse de ce que, peut-être même ce que Dieu a mis dans notre cœur. Et qu'est-ce que nous allons faire à ce moment-là? Il va falloir que nous gardions nos sentiments véritablement bien maîtrisés. Hein. Que nous disions au Seigneur, eh bien, garde mon cœur et garde mon âme de battre la chamade. Oui. De battre la campagne. Et de partir dans tous les sens. Parce que la foi, c'est de la souplesse. Et c'est aussi de la persévérance. Et je dirais, comme nous l'avons dit vendredi dernier, c'est de l'humilité aussi. Il faut être humble. Si Dieu veut nous conduire loin, donc, souplesse, persévérance, humilité, et on pourrait résumer ça par une expression, un abandon paisible entre les mains de Dieu. Je me confie en toi, Seigneur. J'espère en toi, simplement. C'est Dieu qui marche devant, et non lui derrière nous. Et ça, faut pas l'oublier. Quand il est dit, ayez les regards fixés sur Jésus, c'est bien qu'il est devant. Hein. Parce que si vous voulez, on ne peut pas le faire à l'extérieur, de l'autre côté, hein, dans l'autre sens. Les yeux fixés sur Jésus, il marche devant moi. Il ouvre la voie, et à nous tout simplement de le suivre. Ce n'est pas bon signe, j'introduis cette pensée, quand quelqu'un s'obstine à s'ouvrir lui-même la route ou les portes. On l'a vu hein, dans l'église du Seigneur, des frères impatients, des frères tumultueux, qui... envers et contre tout, voulait véritablement eh bien, avancer, quitte à bousculer les autres et les écraser, les mettre sur le côté. Ça, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe à chercher par tous les moyens d'avancer, et qui fait que, ben, quelquefois, on fait du mal autour de soi. Quand on voit quelqu'un qui s'agite, qui se démène, là, j'allais dire comme un beau diable, non, mais... Parce que le diable n'est pas beau, hein. De toute façon, c'est une vilaine expression que les hommes ont courant coutume de dire. Quand ce chrétien-là se jette tête baissée contre tous les obstacles. Parce que si le Seigneur nous précède, il ouvrira toutes les portes devant nous et nous n'aurons pas à les forcer. Ça arrivera en son temps. Mes frères et mes sœurs qui attendaient quelque chose, de quelque nature que ce soit, ne forcez jamais les portes. Soyez flexibles entre les mains de Dieu. Vous verrez, elles s'ouvriront. Et ça se fera merveilleusement. On a une expression avec mon épouse. Quand on demande quelque chose, on dit, Seigneur, tu nous le sers comme sur un plateau. Vous voyez? Et c'est vrai, bon, c'est une expression à nous, hein, vous ne le répéterez pas parce que je ne voudrais pas qu'elle soit utilisée ailleurs. Hein. Mais quand même, ouais, Seigneur, tu nous sers comme sur un plateau. Et combien de fois? Il a fallu attendre. Hein. Il a fallu quelquefois patienter. Mais je dis, Seigneur, nous, une chose que nous voulons, c'est que véritablement, dans tout ce que tu nous donnes, ça nous vienne dans des conditions de paix et de grâce. Et on l'a vu. Et des choses qui semblaient impossibles à réaliser. Et c'est arrivé comme cela. Merci, Seigneur. Parce que le Seigneur que nous invoquons, c'est un Dieu de paix. Et ça, c'est formidable de vivre la paix. De vivre la paix même dans l'exaucement. Normalement, ça devrait être toujours comme ça. Quatrième critère. Est-ce que mes sentiments et mes impressions restent dans le cadre de la raison et du bon sens? Oui, parce qu'on a parlé de la Bible, on a parlé de la justice, on a parlé là de, qu'est-ce que je viens de dire, hein, du plan providentiel. Mais maintenant, voyons un peu. Voyons un peu. Est-ce que ça reste dans le cadre de la raison et du bon sens? Un chrétien a un témoignage à rendre et il ne doit pas prêter au ridicule. Même en avançant des prétextes de foi, d'exaucement, de réalisation de la volonté de Dieu, de but à atteindre, d'objectif à réaliser. Il ne doit pas prêter au ridicule, il ne doit pas prêter au fanatisme, il ne doit pas prêter à l'illuminisme, aux excès, à la démesure et au dérèglement. On est bien d'accord là-dessus. En tous les cas, moi je ne conduirai pas l'Église, même si elle est charismatique, évangélique, pentecôtiste, à des choses qui portent atteinte au témoignage à la fois de l'Église, donc du corps de Christ et de Jésus-Christ en faisant n'importe quoi. Avec moi, vous ne marcherez pas au plafond. Vous ne roulerez pas par terre. Vous n'aurez pas des dents en or qui pousseront comme ça. Ou des paillettes d'or qui tomberont dans votre Bible. On en a entendu des histoires. On en a entendu des histoires. Et je peux vous dire que moi, j'en ai honte quelque part. Parce que quand vous regardez la vie de Jésus, ça n'a pas été ça. Alors, quand on est chrétien, eh bien, on doit pouvoir rendre un bon témoignage. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et on a eu à se battre contre ça, contre l'illuminisme. Ah, moi, vous savez, le Seigneur me parle en direct. Et ceci et cela, je vois les étoiles. Enfin, bon, aussi, je les vois, quand il n'y a pas de nuages. Les excès qui ont vidé les églises et qui ont divisé les églises des chrétiens, avec toutes sortes de choses qui volaient dans tous les sens. Non, moi je dis bien, est-ce que mes sentiments et mes émotions restent dans le cadre de la raison et du bon sens? Et Dieu est le Dieu de la raison et le Dieu du bon sens. D'un bon sens sanctifié. Ça ne veut pas dire que la vie de l'Esprit ne doit pas s'exprimer au milieu de nous, hein. Je tiens à le dire. Parce que le Saint-Esprit, il est bon, il est formidable. Quand il parle par des prophéties, il exhorte, il console, il enseigne, il relève, il fait des choses extraordinaires. Et ça, nous voulons de ce Saint-Esprit-là. Mais pas de toutes ces choses qui s'envolent, qui volent dans tous les sens. Hein. Vous savez, l'Église est touchée. Hein. Pas ici, mais elle est touchée un peu de tous les côtés. Hein. Parce qu'on veut contrefaire le réveil du Saint-Esprit. Alors, on y va, on fait toutes sortes de choses. Hein, on crie à qui veut l'entendre, la victoire est à Jésus-Christ. Bien sûr que la victoire est à Jésus-Christ, naturellement. Alors, les gens, ils vous regardent, ils vous disent, « Ah tiens, c'est bizarre, cela. » C'est curieux, quand même. Hein. Moi, quand je me réfère à ce que nous dit le chapitre 12 de l'Évangile de Matthieu, quand il nous est dit que lorsque l'envoyé de l'Éternel viendra, il ne criera pas dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui est plié, il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Quel équilibre chez Jésus et d'un témoignage parfait. Et non pas de faire n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui. Pour raison de spiritualité qui n'est plus de la spiritualité, mais qui n'est que du psychisme. Et le psychisme, c'est quoi? C'est l'âme dont nous parlons. Dans Romains, Paul nous dit, il nous parle d'offrir à Dieu nos corps, ce qui sera un culte raisonnable. Ah, raisonnable. Un culte raisonnable. Il faut savoir que la volonté de Dieu s'accordera toujours avec un jugement, avec une attitude, avec une confession de foi, des actions spirituelles et éclairées. Ouais. Éclairées, Dieu éclaire. Dieu est lumière, et il nous donne, si nous le prions, la sagesse et l'intelligence dont nous avons besoin. Dieu nous demandera jamais des choses absurdes, insensées et privées du bon sens. Et un jour, le diable est venu vers Jésus dans cette fameuse tentation, troisième tentation. Vous connaissez ? Monte donc sur le haut du temple, puisque tu es le Fils de Dieu, et jette-toi en bas, tu verras, il y aura des gens qui vont venir te porter. Jésus a dit non, parce qu'on ne tente pas Dieu. Et il y a des gens qui font n'importe quoi, qui font toutes sortes d'expériences, qui proclament des choses dont ils sont complètement ignorants des résultats et des conséquences. Et s'ils les faisaient pour eux-mêmes, mais c'est qu'ils envoient les autres, finalement, en avant. Tu devrais faire ceci, j'ai une révélation, tu devrais faire cela, et ceci et cela. Ils ne font pas eux-mêmes, mais ils envoient les autres. Alors là, c'est grave. Vous savez qu'il y en a qui sont morts comme ça. Il y a un proverbe qui nous dit que les conseillères ne sont pas les payeurs. Eh bien, ça vaut aussi dans le monde de l'Évangile. Ouais. Parce que nous devons avoir du discernement. Et nous devons juger par nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'abdiquer cette grâce que Dieu nous a donnée d'avoir une intelligence et de réfléchir. Vous savez, quand on est chrétien et surtout quand on est pasteur, on a besoin de ne pas se laisser embarquer dans toutes sortes de choses. J'ai eu dans une certaine époque de ma vie un forcing terrible sur des mois et des mois parce qu'on voulait me faire faire des choses où moi j'avais dit je ne les ferai pas parce que ce n'est pas dans la pensée de Dieu. C'était des choses excentriques, des choses qui normalement devaient amener le réveil. Eh ben moi j'ai dit non dans ma conviction personnelle et j'y ai perdu des amis, je peux vous dire. Je le regrette, mais c'est terrible. Parce que, étant donné que j'avais une position, eh bien, si le pasteur le fait, tout le monde va le faire. Mais moi, ce qui allait se passer, je le savais, c'est que l'église allait se diviser. Et moi, j'ai dit, je suis un berger et je reste auprès du troupeau. Bon. Et ils étaient pas contents. Hein. Parce qu'il y avait des pressions. Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, et etc., etc. Moi, vous savez, les petites visites à Toronto, au Canada, ça m'intéressait pas beaucoup, pour ceux qui comprennent. Quand on voit comment les gens reviennent, en critiquant, en divisant, et en méprisant leurs frères et leurs sœurs, eh bien, permettez-moi, moi, il y a une chose que j'ai compris, c'est que Jésus a bien enseigné qu'on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Si le fruit est bon, c'est parce que l'arbre est bon. Si le fruit est mauvais, c'est que l'arbre est mauvais. Là, c'est pas trop difficile à comprendre. Hein. Si vous allez chercher des bananes sur des poiriers, il y a vraiment une évolution génétique, là. Hein. Transformation. Hein. Non, mais... Alors Dieu ne nous conduira pas dans des choses absurdes, insensées, privées de bon sens. C'est pour cela que Dieu nous a donné l'intelligence et nous avons besoin de demander à Dieu, notre intelligence naturelle, elle a besoin d'être reprise en sous-main par le Saint-Esprit de Dieu, d'être purifiée, d'être vivifiée, d'être renouvelée. Et nous avons aussi ce besoin de raisonner. Pendant des siècles et des siècles, l'Église officielle a toujours dit aux fidèles ou aux croyants, vous ne tracassez pas, on s'occupe de tout. Ben oui, on s'occupe de tout, vous n'avez même pas besoin de penser votre foi. Hein, pendant des siècles et des siècles, c'est ce qu'on a dit, on a renfermé les gens en disant « Mais pour la terre, on s'est occupé de vous, pour le ciel, on s'occupe de vous. Contentez-vous de venir à la messe. » C'est tout, mais c'est pas ça. Surtout quand on a privé les gens pendant des siècles et des siècles, on a privé les gens de la lecture de la Bible. Hein, c'est bien pour ça qu'on est devenu protestant. Parce qu'on a protesté. Et on veut comprendre, et c'est normal, le Seigneur nous a demandé de comprendre. Autrement, le Seigneur n'aurait jamais enseigné ses disciples et dit aux disciples, eh bien, enseignez-leur. Je ne fais pas ce que vous voudrez, primaire. Il est bon de penser nos impressions, nos pressentiments, nos sentiments et nos émotions. Cinquième critère. Mes sentiments et mes impressions me conduisent-ils à un comportement impulsif à réagir par à-coup, donc par instinct. Alors là, on touche la question du caractère de chacun. Et comme nous avons tous bon caractère, je ne parlerai pas de tout ça. Vous voulez que je donne quand même quelques mots? Ça vous intéresse? Personne ne dit rien. Hein, enfin, on a tous des caractères différents, ça c'est sûr. Eh oui, mes sentiments, mes impressions... Tout n'est pas toujours simple hein, dans la vie. On ne rencontre pas toujours des gens qui vous disent oui et amen. Ça peut commencer quelquefois dans les conflits de couple, hein, dans les conflits familiaux avec les enfants, avec les collègues de travail, avec peut-être les chrétiens entre eux. Eh bien oui, on a divers sentiments, divers ressentis, des impressions. Et est-ce que à ce moment-là, hein, comment je vais gérer les choses. Avec quelque chose qui ne me plaît pas, quelque chose qui me vexe, quelque chose qui me contrarie. Alors, est-ce que je vais partir au quart de tour, hein? Puis là, on y va, c'est la guerre, et puis on va régler ça sur le champ de bataille. Ou est-ce que j'ai peut-être besoin de réfléchir un petit peu et de me dire, Alain, calme-toi. Je me parle à moi-même, hein? Je ne parle pas de vous. Du calme, on dit, vous savez, cool. Alors, l'instinct. Agir et réagir, et ce qui peut en être quelquefois le geste et le parler, sous l'influence d'une suggestion ou d'une impulsion soudaine, c'est rarement, mes frères et mes sœurs, la méthode du Seigneur. N'allez pas dire « je me suis emporté, c'est le Seigneur qui l'a voulu ». En plus, si vous avez donné un coup de poing dans la figure. Et vous seriez bien embêté si l'autre vous disait « ah, t'as oublié une joue ». C'est rarement quand on se met en colère, par réaction, vivacité, épidermique, c'est rarement la méthode du Seigneur. Il n'y en a qu'un qui s'est mis en colère, et c'était une sainte colère, c'est Jésus au temple. Mais nous, on n'est pas Jésus. Hein? Enfin, j'espère que vous ne prenez pas pour Jésus. Ou autrement, on va avoir un entretien ensemble. Hein? Moi, j'aurais bien vous connaître. Eh, hey! Un petit clin d'œil. Alors, par contre, c'est bien souvent la réaction qu'utilise l'adversaire. Si ce n'est pas celle du Seigneur, c'est celle que l'adversaire utilise, qui se reconnaît par des pressions qu'il exerce sur nous, pour nous énerver, pour nous titiller, pour nous faire sortir de nos gonds, pour finalement que nous nous hâtions de prendre une décision ou une réaction, que nous nous précipitions même dans une aventure où il faudrait d'abord réfléchir, et parfois même que nous nous affolions. Il exerce la peur et la crainte. Alors là, on y passe par ça. On entend des choses et quelquefois on a peur, on a crainte. Alors quand vous avez peur et quand vous avez de la crainte, ne faites rien, laissez passer un petit peu. Quand vous êtes dans un état de déprime, ne prenez jamais de décision parce que c'est très mauvais. Vous allez le regretter parce que les choses sont un petit peu dénaturées, dénaturées. Oui, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Voilà donc. Nous sommes au milieu, il y a le Seigneur et il y a l'adversaire, lui qui garde le silence, il fait ses coups en douce. Mais il nous connaît bien dans nos réactions. Il y a des frères et des sœurs, c'est une belle expression, qui sont sous-pôlés. Vous connaissez ? Non. Et il suffit de pas grand-chose pour que là, ils montent sur leurs grands chevaux. Vous vous rendez compte des expressions qu'on a ? C'est curieux, hein, cela. Et il va nous précipiter, nous affoler, toutes sortes de choses. Il essaie de nous persuader qu'il ne faut pas attendre, et il s'évertue à nous faire perdre patience. Dans un conflit qui éclate, le mieux, c'est d'être sage. Parce que si vous commencez à répondre du tac au tac, vous allez voir, il va y avoir, ça va monter en crescendo. Hein. C'est une question de sagesse et élémentaire, peut-être même d'intelligence. Parce qu'après, on peut tomber dans une spirale qui peut nous emmener beaucoup plus loin. On a tous été défiés dans notre vie. On a tous été humiliés. Et il y en a qui ne se gênent pas, ils ne sont même pas conscients qu'ils humilient les autres. Mais heureusement que, dans certains cas, on n'aura pas répondu, même si on avait le verbe pour répondre, même si on avait, quelque part, le répondant. On s'est tous fait plaquer au mur. Vous savez ce que ça veut dire, se faire plaquer au mur ? Vous avez quelquefois des duels qui vous arrivent, comme ça, c'est même pas un duel, parce que si vous ne répondez pas, il n'y a plus de duel. Mais quelquefois, vous êtes plaqué au mur, et vous auriez peut-être de quoi répondre, mais il faut mieux rien répondre. Et là, vous avez des réactions. Alors, on n'endort pas la nuit, après, quand on vit des choses comme ça. Ça vous remue dans tous les sens, ça vous met dans un état. Et puis, vous avez la voix de Dieu, de la sagesse, qui vous dit, bah, écoute, calme-toi, et puis, là, il faut prier à ce moment-là. Puis vous avez le diable, il dit, non, tu ne peux pas accepter ça. Oh, la prochaine fois que tu le vois, viens avec une massue, et tu arrives par derrière, en pleine nuit, et tu lui en mets un bon coup sur la tête. Tu vas voir, ça va lui faire du bien, ça va lui remettre les idées en place. Alors, c'est vrai que vous avez deux méthodes. Mais vous avez compris qu'il y en a une qui n'est pas bonne. Hein. Il y en a une qui n'est pas bonne parce que vous allez lui donner une bosse, mais vous, vous allez peut-être en avoir une dizaine de bosses aussi après. Parce que quand il va se relever, vous allez voir qu'il ne va pas être doux. Hein. Et c'est le crescendo, on monte. C'est l'escalade, hein. Dans les termes militaires, on parle d'escalade. Hein. Ouais. Et ça fait mal. Alors, il veut nous faire perdre patience. Il est alors finalement content, l'adversaire, quand il parvient à faire nous faire battre la chamade, nous armer, faire toutes sortes de choses, dans nos pensées d'abord, dans nos sentiments, et nous confondre dans nos impressions, parce que finalement, eh bien, on ne sait plus où on en est. Et quand on ne sait plus où on en est, eh bien, c'est là où on fait des bêtises. C'est là où on dit des bêtises, des choses qu'il ne faudrait pas faire. Le Seigneur, selon son exemple, lui, reste toujours calme et paisible. C'est pas vrai, ça? Ouais, on le voit, hein, pourtant il a été bousculé. Gethsémané, Golgotha, et puis à Nazareth, là, auprès de tous ceux qu'il connaissait bien. Et puis dans tous les jours, il avait ce genre de choses. Et le Seigneur prend toujours son temps. On attend que les choses se calment. Dans certains problèmes d'église dont nous avons eu à traiter, le Seigneur, même si on avait envie de monter au créneau, de dire non, calme-toi. Reste calme, tu vas voir. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais n'en ajoute pas. Parce que finalement, l'adversaire, lui, il attend qu'on réponde pour pouvoir en remettre encore une couche. Et ça n'en finit pas. Hein. C'est pas facile. Hein. Franchement, c'est pas facile. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ouais. Et puis, vous connaissez, c'est quand même dans le calme et la confiance que sera notre force. C'est pas dans l'agitation, dans le mouvement, et puis en faisant n'importe quoi, non. C'est dans le calme et la confiance. Sixième point, dernier point. Mes sentiments et mes impressions naissent-ils d'un désir de comparaison, d'être comme l'autre, par exemple l'admiration d'autrui, de vouloir être autrement que je suis, alors je risque fort d'être très malheureux en me sous-estimant, mais particulièrement en me sous-estimant, et mon existence, de ce que je ressens, eh bien, finalement, va m'amener à être induit en erreur. Et il y a un phénomène qui est très fréquent dans la nature humaine, ce sont les complexes. Ouais. Par complexe, parce que le complexe, c'est ce que je ressens. Les autres ne le sentent pas. Vous pouvez avoir la plus belle fille du monde qui se regarde dans la glace et qui se trouve pas belle, alors que tout le monde dit, mais elle est formidable, cette fille. Et les hommes, c'est pareil. Alors c'est soit tout l'un ou tout l'autre, la surestimation, en disant, eh bien, vous savez quand même, vous pouvez me regarder quand même, je suis le plus beau, n'est-ce pas? Vous êtes obligé de me répondre. Hein. Ou alors, il y a des gens qui ont des qualités, il y a des gens qui ont toutes sortes de choses, et qui sont perclus de complexes. Je ne vois rien, je ne peux rien faire, et ceci et cela, etc., etc. Alors est-ce que mes sentiments et mes impressions naissent-ils d'un désir? Ça, c'est le moi, c'est l'ego, vous comprenez? Ça s'appelle être égocentrique. Sur cette base, toutes mes impressions, qui sont souvent négatives, vont me trahir. Ce sont des sentiments de dévalorisation, ou alors le contraire, d'excès, d'orgueil, mais ça va m'amener à la destruction. Mes frères et mes sœurs, il faut régler le problème aussi avec le Seigneur devant ça, avec le Seigneur devant ces choses. Alors je tire la conclusion maintenant. La conclusion, c'est un petit peu tout ce que nous avons dit dans ces deux dimanches. Ne décidons jamais sur la seule base de ce que nous ressentons. Est-ce que vous allez prendre maintenant l'engagement de ne pas... On va dire oui, mais après, dès que les choses naturelles vont revenir, hein, c'est autre chose. Donc, ne décidons jamais sur la seule base de ce que nous ressentons. Examinons nos impressions qui sont souvent charnelles sous des apparences spirituelles. Eh oui, quelquefois on se dit, mais bon, c'est spirituel. Mais quelquefois c'est plus charnel qu'on le pense. C'est plus charnel. Dieu a fait la promesse de nous aider. Il nous dit ceci dans le psaume 32, verset 5. Je t'enseignerai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Et j'aurai les regards sur toi. C'est pas beau? Eh, on a tout. Donc, quand on a des impressions comme ça, de dire, Seigneur, eh bien, aide-moi véritablement à bien comprendre ce qui se passe. Parce que notre âme, notre cœur, nos sentiments, nos impressions, c'est véritablement un champ de bataille. Et c'est souvent comme cela. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Je veux faire ta volonté. Bien sûr qu'on veut faire la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est là, la parole est là pour nous le dire. Mais à côté, il y a tellement de tiraillements, tellement de choses. Alors le Seigneur nous dit, mais Je t'enseignerai, c'est ce qu'on fait ce matin. Je te conduirai, tu viendras avec moi, tu marcheras avec moi, près de moi. Et puis, finalement, je te montrerai la voie que tu dois suivre, parce qu'il y a des carrefours quelquefois à prendre. Lequel, Seigneur, je dois prendre? Selon ce que je ressens, mes préjugés, mes impressions, ou alors la voie royale qui est la tienne, la marche par la foi en te faisant confiance, même si je marche à l'aveugle, dans un certain sens. Alors j'aurai le regard sur toi, je te conduirai. Puis-je me fier à mes impressions? Qu'est-ce que l'on répond là? Je dirais oui et non. Parce qu'on ne va pas se départir de notre personnalité. On est comme ça, le Seigneur nous a fait comme ça. Alors, puis-je me fier à mes impressions? Quelle est la valeur de ce que je ressens? Est-ce que c'est une valeur véritablement qui rentre dans la justice, dans le plan de Dieu, dans la providentialité de Dieu? Ou est-ce que ça vient d'ailleurs? Quelle est la valeur? Quelles sont les différentes voix intérieures qui me parlent? Il y a la parole de Dieu. Il y a le Saint-Esprit. Il y a l'adversaire, il y a mon moi, il y a mes désirs. Comment faire la différence, Seigneur, dans tout ça? J'ai souvent discuté, par la nature même du ministère pastoral, avec des tout jeunes convertis. Et ils sont tout feu, tout flamme, hein, on peut le dire. Mais souvent, ils viennent avec des grandes questions. Des grandes questions, ils sont perplexes, ils sont quelquefois à la cave et au grenier. Alors là, on y est passé, hein, si ça peut rassurer ceux qui commencent. On y est tous passés, il faut passer par là, ça fait partie de l'école. Mais quelquefois, ils me disent, mais, oh là là, ce que je ressens, je sais. Alors souvent, ils affirment, ils savent tout, ou alors ils ne savent plus rien du tout. Ils sont tiraillés, il y a la loi, il y a la grâce, il y a toutes sortes de choses. Alors, quelles sont les différentes voies intérieures? Mais ils vont l'apprendre au fur et à mesure, ils vont le découvrir. La lutte spirituelle, parce que notre cœur et notre âme est disputé dans une âpre lutte qui est de nature spirituelle. C'est ce qu'on appelle les interférences. Est-ce que le rêve est digne de confiance? Il y a des gens qui sont venus nous voir quelquefois en disant « j'ai fait un rêve sur vous ». Ah bah c'est bien, c'est gentil. C'est bien, hein? Est-ce que vous rêvez sur moi? Eh oui, ben oui, mais c'est ça. Et j'ai vu que ceci et cela. Alors je lui ai dit, écoutez, quand ça a commencé que ça me concerne, je lui ai dit, écoutez, bon, vous avez rêvé, c'est bien, bon, vous me... Hein, mais faisons attention. Parce qu'on a induit des gens vraiment en erreur. Parce que vous savez, moi je veux bien qu'il y ait des choses comme ça et tout ça. Mais le Seigneur est capable de s'intéresser à l'intéressé lui-même. Parce que c'est bien de conduire les autres, hein. Ah, tu sais, le Seigneur m'a révélé que tu devais partir en Afrique pour faire ceci et cela. D'accord. Bon, bah, tu me paies le voyage. Vous voyez, ça coupe tout de suite. Ça coupe tout de suite la chose. Ah bah oui, mais bon, non. Bah, non mais, enfin, c'est un petit peu ridicule ce que je suis en train de dire, mais quand même. Les petites voix intérieures qui sont en train de nous parler comme ça, qu'est-ce qu'on doit en penser? Ben moi, je crois qu'il y a des voix qui parlent et qui viennent authentiquement du Saint-Esprit. Et puis, il y en a d'autres qui viennent de mon âme à moi-même parce que j'ai des désirs. Et je voudrais bien que c'est des choses qui se passent. Parce que ça fait partie du fantasme, en quelque sorte. De la nature, de notre âme. Il n'y a pas de hasard. Mais l'Écriture nous éclaire et nous apprend à comparer ce que je ressens avec ce qu'elle dit. Et je dois toujours regarder et toujours revenir à la parole de Dieu. Est-ce que c'est juste? On l'a dit tout à l'heure. Dieu n'ira jamais contre ce qui est conforme au principe universel de la morale et de la justice. Autrement, Dieu ne serait pas saint. Il ne serait plus saint. Il n'ira pas contre. Quant aux situations providentielles, est-ce que c'est moi qui crée les circonstances et leur réalisation ou c'est Dieu qui me conduit? Parce qu'on peut gamberger, hein. On peut vouloir une chose tellement intensément, on peut même y mettre de la prière, on peut même jeûner, on peut faire toutes sortes de choses, surtout dans le domaine des sentiments, de l'amour entre autres, de l'affect. Et là on peut dire, ah oui c'est ça parce que je le ressens. Oui mais attendez, hein. Attendez, il faut que ça passe au crible quand même de certaines choses. On a entendu des choses aussi assez étonnantes. Des gens qui voulaient se marier avec des gens qui étaient déjà mariés. Ah oui mais vous savez c'est l'amour, je ressens ceci. Non, ça passe pas, vous m'excuserez, hein. Il y a des principes universels de justice et des principes de morale. Un jour, il y a une jeune fille qui vient me voir et qui me dit, elle vient à la position des mains, elle me dit, voilà, je suis amoureux d'un homme marié. Ah, comment vous allez prier avec ça? Pour, pour. Ah oui, mais je l'aime, j'ai des sentiments, j'ai ceci et cela. Le métier de pasteur, c'est pas facile. Non, mais c'est vrai, hein. La raison qui me rappelle toujours que cette action doit être sensée, qu'elle doit être conforme à la nature de Dieu et que le résultat final est de le glorifier. Ouais, de le glorifier. Alors on peut tous se tromper. On peut tous, et Dieu permettra qu'on se trompe pour apprendre des leçons. Parce que si on est vraiment top, à ce moment-là, on n'apprendra jamais rien, puisqu'on n'aura pas l'occasion. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se donner les occasions de, comprenez, d'aller dans des voies de traverse. Mais une chose qui est certaine, c'est que quelquefois, compte tenu de nos sentiments et de nos impressions, nous faisons les choses avec une grande sincérité. Eh oui, mais la sincérité, c'est pas toujours la vérité. Et c'est bien le problème. Alors, je termine. Attention à la colère. Vous êtes mis en colère cette semaine ? Calme. Attention à l'impétuosité. Vous savez quand ça bouillonne un petit peu comme ça. Attention à la témérité. Ça n'a rien à voir avec la foi, la témérité. C'est pas parce qu'on fait des grandes proclamations. Mais le Seigneur va me faire marcher sur les eaux. Que vous allez marcher sur les eaux pour autant. Attention à l'emportement qui enflamme dangereusement tout sentiment affectif et émotionnel. Ce qui me fait dire et conclure avec le prophète Ésaïe, quand il dit ceci, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix. » Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous aide. C'est pas facile la vie, hein. Ouais. Mais avec le Seigneur, lui, il veut nous conduire. Parce qu'il nous a promis d'avoir les regards sur nous. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants. Je vais demander à Henri, s'il te plaît, de bien vouloir invoquer le nom du Seigneur. Merci.